L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business à suivre jusqu'à 18h. Donc, notre World Tour tout à l'heure. Et puis notre dossier de l'atelier. Nous irons du côté de la rédaction de zeronet.com, le crash test d'Antoine. Mais auparavant, notre passion selon Sanette, et on va parler d'un sujet qui, attire tout le monde en ce moment. Il s'agit de la réalité augmentée virtuelle, qui peut être au service de la formation, mais aussi pour la découverte du patrimoine. On va en parler avec nos invités.
Mais oui. Lila. Mais oui, alors, comme vous le mentionnez, le marché de la réalité augmentée virtuelle a un potentiel de développement assez considérable. Les études foisonnent sur le sujet. La réalité augmentée, son marché pourrait, dit-on, atteindre 120 milliards de dollars en revenus, la réalité virtuelle 30. Les applications foisonnent. En début d'année, on avait effleuré le sujet, notamment avec les applications industrielles de maintenance. On va aujourd'hui s'intéresser à l'éducation de manière, vous le verrez, assez générale, à la fois appliquée à la formation professionnelle et de l'autre à la, comme vous le disiez si bien François, à la redécouverte de notre patrimoine. On a deux experts en plateau et par téléphone. Adrien Sadaka, bonjour.
Bonjour.
Alors, Adrien Sadaka, vous êtes cofondateur et président de Timescope. Et nous avons par téléphone Olivier Schimpf. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, Olivier Schimpf, vous êtes cofondateur et président de l'association RA Pro. Alors, Adrien Sadaka, comme on le disait, vous avez fondé avec votre associé la start-up Timescope. Une start-up qui entend nous faire littéralement remonter le temps. On y reviendra. Oui. Alors, on va commencer par les bienfaits de la réalité virtuelle avec vous. On en connaît les applications dans l'univers du jeu vidéo. Vous avez tablé sur l'histoire avec un grand H.
Tout à fait. Alors en fait.
Alors comment ça?
Timescope, c'est la première borne de réalité virtuelle en libre service. En fait, on est parti du constat avec mon associé Basile Segalen que sur les lieux touristiques, les lieux chargés d'histoire, aujourd'hui, les touristes qui les fréquentaient pouvaient ressentir une forme de frustration dans le fait de pas avoir la possibilité d'être transporté dans ce que ces lieux étaient. On a beaucoup d'informations écrites, parfois des maquettes, parfois des reconstitutions mobiles sur tablette. Mais aujourd'hui, la réalité virtuelle, ça change complètement la donne. Grâce à un casque, on a la possibilité d'entrer en totale immersion dans un environnement qui est reconstitué en 3D. Donc en fait, le gros plus de cette technologie-là, c'est le sentiment de présence. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on amène cette technologie sur des lieux qui sont historiques, chargés d'histoire, qui accueillent un grand nombre de visiteurs, qui ont un intérêt particulier pour le patrimoine de ces lieux-là, dans la mesure où ils viennent le visiter pour ça.
Alors faites-nous rêver, donnez-nous un exemple. Ça peut donner quoi, la réalité virtuelle, dans quel type d'endroit ?
Alors, par exemple, à la Bastille, il y a énormément de gens qui viennent à la Bastille. La Bastille porte le nom d'un monument qui est disparu. Donc, Place de la Bastille s'installera en mars, en avant-première, la première borne de voyage dans le temps. Et on montrera à cette occasion-là à quoi ressemblait la place exactement en 1416 et en 1789. Et donc, on fera voyager le public, ça peut être des Parisiens, ça peut être des touristes, ça peut être des Français qui viennent visiter Paris. On montrera à quoi ressemblait la place à ces deux époques.
Alors, via une tablette ou via un masque, là? Comment ça marchera?
Alors, en fait, il y a une tablette qui permet de choisir l'époque de son choix et d'obtenir des informations textuelles. Et ensuite, le cœur de l'expérience se situe au niveau d'un casque qui est intégré à la borne qui ressemble, vous pouvez aller voir sur notre site internet à quoi elle ressemble, elle ressemble, on s'est inspiré du design de la longue vue télescopique qu'on peut voir à Montmartre, à la Tour Eiffel, sur les plages de Normandie, et en fait, l'utilisateur, il arrivera devant la borne, il sélectionnera l'époque sur l'écran tactile et il entrera en immersion, il pourra faire 360, donc pour avoir un panorama complet, regarder en bas, en haut et ajuster à la taille, très important, parce que dans une optique pédagogique, on s'adresse aussi bien
au grand qu'au petit. D'accord. Passionnant tout ça.
Alors pourquoi 1416 ?
1416 parce que la Bastille avait 30 ans.
D'accord.
Donc elle était récemment construite et c'était il y a 600 ans. Donc de ce point de vue-là, ça nous semblait intéressant de montrer aux gens à quoi elle pouvait ressembler quelques années après sa construction et avec une date d'anniversaire.
Est-ce que vous travaillez avec les historiens, enfin j'imagine que oui, pour concevoir ces, ouais, ces, peut-on dire, maquettes,
ces ou... reconstitutions. Ouais. C'est en fait c'est des reconstitutions vidéo 360 stéréoscopiques. Donc la façon dont on travaille, tout d'abord mon associé a un background d'histoire et de sciences politiques, donc il a la capacité d'analyser des sources historiques. Donc on récupère des sources historiques, des éléments iconographiques, typographiques très large. Ensuite, on les synthétise, on définit une époque, un emplacement, et puis on construit le contenu qu'on fait valider scientifiquement par un historien, une historienne qui est expert ou experte du lieu dont on parle. Donc, par exemple, à la Bastille, on a fait valider notre contenu par une historienne qui s'appelle Héloïse Baucher, qui a travaillé pour le musée Carnavalet et dont la thématique majeure est la Bastille.
On a également un champion du genre de la reconstitution historique 3D. Je pense à Dassault Systèmes.
Tout à fait.
Est-ce que vous pourriez imaginer à terme intégrer certains de leurs modèles, travailler avec eux?
Bien sûr. En fait, au niveau du contenu, tout comme du casque, on est agnostique, c'est-à-dire qu'on peut accueillir n'importe quel type de contenu. Et donc, le contenu que Dassault a fait pour
c'était
pour
à la
Paris.
Fois, c'était collège des Bernardins. Il y avait la crypte de Notre-Dame, les pyramides de Khéops.
L'exposition universelle. Il y avait vraiment plein de choses. C'est un contenu qui est très riche et qu'on pourrait réintégrer effectivement dans la bande. Pour l'instant, on commence avec une équipe qui est très pointue en termes de graphisme sur le contenu, parce que contrairement à ce qui s'est fait jusqu'ici souvent dans le monde du patrimoine, nous on fait pas du temps réel, on fait de la vidéo. En fait, ça nous permet, c'est une technique de production qui nous permet d'avoir une qualité de rendu. Du fait de précalculer, excusez-moi, c'est un petit peu technique, du fait de précalculer les images, ça nous permet d'avoir une qualité de rendu qui est maximale. Donc on pousse la qualité au maximum avec une équipe de graphistes, de modeleurs, texteurs, animateurs qui est très pointue.
Très bien. Alors, Olivier Schimpf, c'est avec nous maintenant.
Oui, tout à fait. Alors, Olivier Schimpf, vous êtes, on le rappelle, à la tête de RA Pro, association de promotion de la réalité augmentée. Est-ce qu'il existe dans l'univers professionnel des applications de formation de la réalité augmentée, et à quoi servent-elles?
Alors oui, il existe des applications de réalité augmentée pour la formation. Elles servent un petit peu dans tous les domaines, aussi bien dans l'éducation des jeunes enfants que dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, la réalité augmentée permet d'immerger les personnes dans des scènes virtuelles. Et dans des situations qui seraient très difficiles à remettre en œuvre. On imagine un tir d'obus dans un char, quelque chose qui est assez difficile à simuler, et on le simule dans une salle de réunion grâce à la réalité augmentée. Alors contrairement à la réalité virtuelle, on est avec l'environnement réel de l'opérateur ou du technicien. Et le gros avantage, c'est que l'opérateur apprend directement avec son outil de travail. Si on prend par exemple une application qui avait été faite par Clarté, qui s'appelle Victoport Pro.
Oui, c'était pour Saint-Gobain.
C'est ça, pour Saint-Gobain. Il permet de simuler des projections d'isolants extérieurs directement dans une salle de réunion. Le gros avantage, c'est qu'on ne consomme pas de matière, on ne consomme pas d'énergie, il n'y a pas de risque pour l'opérateur durant la phase de formation.
Donc il y a un vrai intérêt économique également pour les industriels.
Exactement. On peut imaginer être dans une salle de formation et apprendre à faire des gestes techniques sans avoir forcément la voiture ou le camion ou le train. Par exemple, le SNCF travaille sur des solutions de formation à la maintenance en réalité augmentée dans des salles de réunion au lieu d'être autour du wagon. Donc, ça évite d'avoir des problèmes de froid ou de pluie ou de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, dans la salle de réunion, directement, dans la salle de formation, les techniciens sont dans leurs conditions réelles telles qu'ils travailleraient sur le wagon.
Et est-ce que vous auriez d'autres exemples en industrie?
Alors en industrie, il y a Tessia, un des anciens d'Airbus, qui ont fait une application qui s'appelle Mira, qui permet de faire du contrôle avec des fiches d'opération directement dans l'avion. Donc l'avantage de la réalité augmentée, c'est que en même temps que le technicien de contrôle vérifie la carlingue de l'avion, Mm-hmm. Il a en temps réel les informations qui lui disent là il devait avoir un goujon, là il devait avoir un câble électrique. Et l'autre avantage, c'est que pour le technicien qui va préparer en amont le travail, il a en projection sur la carlingue de l'avion directement les opérations à faire dans les étapes, dans l'ordre dans lequel il doit les faire. Une fois qu'il a fait l'étape, l'image suivante montre l'étape suivante à réaliser. Donc le gros avantage, c'est qu'on simplifie le temps de formation des opérateurs.
Oui, bien sûr.
Et les gens de Testia nous disaient que l'autre avantage, et qui n'avait pas pensé forcément au départ, c'est le chevauchement entre les équipes. C'est-à-dire que le technicien suivant reprenait le travail exactement là où il était, sans forcément avoir d'interaction.
Oui, sans qu'il y ait besoin de mise au point. Ou...
C'est ça.
Est-ce qu'il y a des cas également de... Est-ce que la réalité augmentée peut, dans certains cas, valider ou invalider un projet, une expérimentation, grâce à la simulation?
Alors, c'est une des grandes questions. Oui, c'est tout à fait. Ça permet de faire des études ergonomiques, par exemple, sur des modèles virtuels. Donc là, on est limite réalité augmentée, réalité virtuelle, où en fait, l'opérateur est dans une salle immersive et commence à faire ses mouvements tels qu'il les ferait devant son poste de travail avec de la visualisation en 3D comme s'il était sur son poste de travail avec les vraies pièces qu'il devrait déplacer. Et comme ça on peut imaginer, Carté avait fait une expérience comme ça, on peut imaginer le technicien d'implantation réaliser le modèle 3D en temps réel et l'opérateur dire je préférerais ma boîte un petit peu plus à droite, le poste de travail un petit peu plus haut. Et comme ça, on fait de la co-conception.
Mmh. Très bien, merci beaucoup Olivier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on en est qu'au début. On voit qu'avec la miniaturisation, le perfectionnement de ces masques, peut-être que demain, ça deviendra des lunettes. On parle beaucoup du système HoloLens de Microsoft qui a l'air très, très, très enthousiasmant, même si ce n'est qu'un prototype encore. Donc, on en est qu'au début. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci, messieurs.
Merci, au revoir.
Merci.
Bonne soirée.
Et on revient dans un instant pour la suite de l'atelier numérique sur BFM Business. Vous restez là, World Tour, dossier de l'atelier dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique. Merci d'être là sur BFM Business. Avant de retrouver la rédaction de 01net.com et avant aussi de nous intéresser à notre dossier de l'atelier de cette semaine, il sera question des transports publics de San Francisco qui font leur mue. On va en parler dans quelques minutes. Avant tout ça, c'est notre World Tour et en compagnie d'Aurore Géraud, de notre invité, on va être très World aujourd'hui.
Oui, parce
ce qui pour un World Tour n'est pas mal.
On ne va pas s'arrêter à une région.
Non.
Parce que toutes les terres sont des terres d'accueil.
C'est
et ça. Donc on va parler de réfugiés et on va parler avec Anne-Sophie Dutta qui est tech entrepreneur et d'habitude pour nous spécialistes Amérique latine de Tech Fugees. Donc Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Aurore.
Alors c'est quoi des Tech Fugees?
Alors les Tech Fugees, c'est un mouvement qui a débuté, je dirais, en septembre 2015, en fait, à l'initiative de Mike Butcher. Alors Mike Butcher, c'est un journaliste très connu dans le monde tech, puisque c'est le journaliste de TechCrunch, le magazine high-tech. Et Mike Butcher a été très sensibilisé, un peu comme nous tous, par la crise des migrants et en tout cas sa médiatisation en septembre 2015. Et il a décidé, quelque part, de rameuter un peu toute la clique tech qui tourne autour de lui et principalement à Londres où il est installé. Donc il a créé à ce moment-là un groupe Facebook où il a un peu essayé de connecter tous les entrepreneurs tech sensibles, en fait, comme lui, à cette thématique de venir un peu essayer de réfléchir à des solutions numériques pour pallier à cette crise des migrants. Donc c'est vrai qu'en fait on peut voir en fait que de plus en plus de hackathons. Alors hackathon, c'est week-end où on a des groupes de personnes, donc des développeurs notamment, qui sont là et puis qui sont encadrés avec d'autres entrepreneurs, porteurs de projets, qui travaillent pendant un week-end entier, pendant parfois 36 heures, parfois 54 heures non-stop, pour essayer de, à la fin de ce week-end, présenter des produits, enfin des débuts de produits, mais je veux dire déjà des produits existants qui méritent d'être développés ensuite. Et c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a de plus en plus donc de hackathons qui voient le jour pour aider les villes, pour aider parfois les gouvernements à résoudre des problèmes qui les dépassent. C'est assez intéressant de voir cette initiative, je dirais privée, cette initiative des entrepreneurs, eh bien qui en recours à l'intelligence collective pour essayer d'avoir pour essayer d'imaginer voilà des solutions innovantes. Donc Tech Fujis a déjà créé un premier événement à Londres en octobre, il a réuni plus de 700 participants, donc principalement des entrepreneurs tech mais aussi toute personne intéressée sur le sujet. C'était une journée entière où justement à la fin de cette journée, il y a des projets qui ont vu le jour.
Et là ça arrive en France.
Voilà, exactement, ça arrive en France. Donc ensuite ce mouvement a été cet événement a été repris ensuite à Sydney, ensuite à New York, et là début mars, donc le premier hackathon, voilà, française, le premier hackathon parisien qui aura lieu donc le 12 et le 13 mars, et va mettre en relation trois communautés, la communauté donc d'entrepreneurs sociaux, d'associations qui travaillent déjà au quotidien sur ces problématiques donc d'accueil et des réfugiés, mais aussi cette communauté tech pour justement les aider à travailler tous ensemble, avec aussi notamment des réfugiés qui sont déjà installés dans le pays et qui eux-mêmes pourront apporter, je dirais, leur expérience et qui seront les premiers, voilà, faire part de leurs besoins, de leur expérience, pour justement essayer d'être au plus près possible de leurs attentes et qu'au bout de ce week-end, on ait vraiment des idées qui soient, enfin des projets qui voient le jour et qui soient ensuite dans la continuité, être accompagnés dans leur continuité, dans leur développement, comme n'importe quelle autre start-up, je dirais, qui mériterait d'être appuyée.
Quels domaines on a pu voir émerger déjà? Est-ce que c'est plutôt pour aider à l'insertion? Est-ce que c'est de l'éducation, de l'humanitaire seulement?
Alors en fait, je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a ce qui est vraiment les outils qui peuvent être développés dans une situation d'urgence. L'urgence de ces migrants qui arrivent, qui ont très peu de choses avec eux, mais qui ont toujours un téléphone mobile, parce que c'est leur seul et unique lien avec leur famille, c'est leur manière de se retrouver peut-être des personnes qu'ils connaissent, de suivre l'actualité, de parfois recevoir aussi un transfert d'argent qu'a pu leur envoyer leur famille ou autre. Et puis il y a la situation des réfugiés. Les réfugiés, c'est ceux qui ont déjà reçu leurs papiers, qui sont donc en situation, je dirais, en totale légalité dans leur pays d'accueil, et qui eux ont besoin donc de trouver du travail, de s'insérer et ainsi de suite. Donc l'idée de développer des solutions comme ça pour les deux, c'est justement de faciliter que la situation soit une situation, je dirais, gagnante pour tout le monde, parce que voilà, ces personnes sont là, et plus on va faciliter leur intégration, et plus ce sera enrichissant, bénéfique pour la société. Donc quel type de solution? Mais ça peut être par exemple une forme rechercher tout type d'informations, grâce à une application géolocalisée qui va dire voilà, nous sommes à Paris, quels sont les besoins qu'ils peuvent avoir, que ce soit des besoins juridiques ou administratifs, quelles sont localement les ressources qui existent, et puis leur donner cette information en différentes langues, en tout cas dans la langue qui est la leur. Ça peut être aussi une facilité de une plateforme comme par exemple Action Emploi Réfugiés, eh bien c'est cette plateforme qui met en relation les réfugiés et les demandeurs, les personnes qui ont des offres d'emploi à partager, et qui donc permet effectivement cette mise en relation. Je pense aussi à cette application qui a été développée à Londres qui s'appelle getacross.org et qui là en fait fait appel à toute personne qui maîtrise un certain nombre de langues et qui serait prêt de manière volontaire à s'enregistrer sur cette plateforme et ainsi répondre à des besoins ponctuels de telle ou telle personne réfugiée qui, elle, dit voilà, j'ai un problème de traduction sur ce document administratif par exemple, ou dans d'autres circonstances, et qui fait donc appel, je dirais, à l'aide et aux traducteurs qui se sont enregistrés sur cette plateforme. Voilà les types d'initiatives qu'on peut trouver, mais ça peut être aussi l'accès à l'éducation, de pouvoir apprendre une nouvelle langue.
Merci beaucoup,
Merci
Sophie.
Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci à vous.
Aurore, on va se retrouver tout de suite, mais auparavant, c'est notre dossier de l'atelier. On va parler de Smart City. Les transports publics de San Francisco font leur mue, et c'est avec vous, Pauline Cantner.
Oui.
Oui, François, je suis avec Safel Mansour, qui est directeur marketing de la start-up Blink, qui opère dans le domaine du brand management et qui révolutionne les transports urbains à San Francisco. Saf, merci d'être avec nous. Première question, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur votre parcours?
Bonjour Pauline, bonjour François. J'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 18 ans. Après ça, j'ai décidé de changer de cap un petit peu et puis d'aller aux États-Unis. Donc j'ai fait mon bachelor en business management et juste après, j'ai eu la chance d'atterrir dans le domaine numérique, digital et en particulier mobile. Et donc ça définit un petit peu le reste de ma carrière. Malheureusement, ce qui est arrivé en 2000 après une année d'expérience, c'est que la bulle de dot-com a explosé et donc ça n'allait plus très bien. Et donc c'était l'occasion pour moi de revenir au Maroc où l'économie qui allait très très bien. Et donc ça m'a donné la chance de commencer puis de ma première start-up à l'âge de 23 ans. Et c'est une start-up qui existe toujours. C'est une start-up qui est un libraire en ligne qui dessert les grosses institutions de recherche et les grosses universités internationales. Et donc, après avoir lancé cette start-up, j'ai décidé de revenir sur le marché du travail puis d'acquérir un peu plus d'expérience dans le marketing. C'est là vraiment où je me spécialise, où j'ai le plus de fun. Juste après ça, j'ai décidé de continuer mes études, de revenir aux États-Unis pour un MBA. Et puis, à la fin du MBA, j'ai eu la chance de rejoindre General Motors à Dubaï et à Koweït. Et après ça, je suis retourné aux États-Unis, à Washington DC. J'ai rejoint USA Today, qui est le plus grand journal à diffusion nationale des États-Unis. Et juste après ça, j'ai eu la chance et l'opportunité de revenir dans les startups avec une petite boîte qui bosse dans la vidéo mobile. Et donc, j'ai pris ma petite voiture et j'ai conduit pendant 7 jours. J'ai atterri à San Francisco et j'ai rejoint Blink en 2014.
Alors, que fait Blink?
À Blink, on est une plateforme. On espère connecter les marques avec leurs fans. Notre mission, c'est vraiment de prendre l'expérience du trajet urbain, de la navette, et de rendre ça beaucoup plus fun et beaucoup plus productif pour les habitants de la région qui prennent le métro tous les jours. Si vous imaginez un petit peu les transports urbains en Europe et en Asie, c'est pas exactement comme ça que ça se passe aux États-Unis, parce que c'est un secteur qui a été délaissé pendant assez longtemps, dû au fait que les Américains aiment bien leurs grandes voitures et aiment bien les grands espaces et leur indépendance, mais tout ça change avec la congestion dans les villes, et donc les transports en commun, en public, reprennent du dessus, et surtout les services à valeur ajoutée qui s'accrochent autour de cette expérience de transport. Et donc c'est là où on se positionne vraiment en tant qu'acteur qui essaie vraiment de rendre la navette beaucoup plus fun, beaucoup plus productive, et d'essayer de redonner 5 minutes à chaque personne, chaque 5 minutes de leur temps.
Et donc concrètement?
Concrètement, ça peut être un service, par exemple, comme Instacart, qui est une boîte qui vient qui est très connue à San Francisco, qui vous permet de commander vos courses, de faire vos courses en ligne, et puis d'être livré là où vous voulez. Et donc, on explore un partenariat avec Instacart qui permet aux gens de commander de faire leurs courses pendant qu'ils sont dans la voiture de métro, et de pouvoir récupérer leur sac de course une fois arrivé à la maison ou autre chose. On a aussi lancé un autre service de batterie rechargeable, et donc on sait tous qu'on tombe en panne de batterie très très fréquemment parce qu'on utilise nos téléphones beaucoup plus et surtout quand on est dans une voiture de métro, parce qu'on s'ennuie, on a envie de jouer un petit peu, on a envie de checker nos mails, d'écouter de la musique. Donc tout ça fait que nos batteries durent beaucoup moins, et donc on a fait un partenariat avec une boîte qui s'appelle Doublet, qui est une boîte locale qui donne des batteries qui loue des batteries, pour être plus précis, qui loue des batteries rechargeables qui sont déjà toutes rechargées. Donc ce que vous faites, c'est que sur votre chemin vers la maison ou vers le boulot, si vous tombez en panne de batterie, tout ce que vous faites, c'est que vous récupérez une batterie qui est complètement chargée, et puis dès que cette batterie tombe à plat, sur votre chemin du retour par exemple, vous déposez cette batterie dans un de nos kiosques et vous récupérez immédiatement une autre batterie qui est rechargée. Donc on veut vraiment être un service de conciergerie, un service de dépannage journalier et urbain pour tout le monde.
Donc vous révolutionnez les transports à San Francisco, et quelles sont les prochaines étapes pour vous?
Donc les prochaines étapes
pardon, les prochaines étapes pour nous, c'est vraiment de s'étendre dans toutes les stations de métro de la région de San Francisco et Oakland. Donc on vient de lancer il y a à peu près 2 mois dans les 2 grosses stations principales de la ville de San Francisco. On compte s'étendre dans 5-7 stations de plus durant les 3 prochains mois. Et puis au bout de 2 ans, on espère avoir touché toutes les stations, les 43 stations de la région. Au-delà de ça, San Francisco est vraiment notre ville test, notre région test, parce que c'est une ville qui a beaucoup d'influence sur le reste des États-Unis en termes de créativité et de technologie. Et donc, on a déjà eu des lettres d'intérêt de la part de régies de transport de New York, de Chicago et de Washington DC. Donc, c'est notre objectif, c'est vraiment s'étendre dans toutes les grosses villes des États-Unis et peut-être de l'Amérique du Nord.
Merci beaucoup, Seth. Pour rappel, vous êtes directeur marketing chez Blink.
Pauline, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique avec la rédaction de Zeronet.com qui nous rejoint dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Le crash test d'Antoine Cyr dans un instant. Et puis Guillaume de Grasse aussi qui sera avec nous dans ce studio dans quelques minutes. Mais auparavant, direction la rédaction de Zeronet.com comme chaque samedi avec Éric Le Bourlou, son rédacteur en chef qui est avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Éric, actualité encore une fois très dense cette semaine. On va parler des rumeurs du Mobile World Congress dans quelques minutes. De Volvo qui a un projet de voiture sans clé, d'une nouvelle tablette PC chez Microsoft. Mais on va commencer par sans doute l'un des titres d'actualité qui a fait le plus de bruit.
Ouais.
C'est Apple qui visiblement est en train d'opérer un bras de fer avec le FBI, ni plus ni moins.
Exactement, tout simplement à cause d'une très triste affaire, hein. C'est la tuerie du San Bernardino, hein. Vous vous rappelez, hein, qu'il y avait, voilà, cette terroriste qui avait massacré quasiment une quinzaine de personnes aux États-Unis. Et, un de ces terroristes avait un iPhone. Et cet iPhone, comme tous les iPhones, est chiffré, et crypté.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre un code, dès le départ,
hein, quand on rentre
opérer iCloud en plus, on peut pas débloquer le téléphone sauf si on connaît le code.
Si on connaît pas le code, on ne peut pas accéder aux données de cet iPhone. C'est voilà, ça fait quelques temps que Apple procède comme ça. C'est pas le seul, d'ailleurs. Google fait de même avec Android.
Et c'est pour combattre le vol, hein, entre autres.
Pour combattre le vol et protéger aussi les données de leurs utilisateurs, puisque c'est vraiment maintenant un des grands slogans d'Apple, hein, la protection des données de l'utilisateur. Le problème, c'est que ce terroriste avait donc un iPhone qui reste bloqué, qui est entre les mains du FBI, et il n'y arrive pas à accéder aux données de cet iPhone.
Ils ont tout essayé,
ils ont tout essayé.
Les tournevis, voilà. Ils y sont pas arrivés.
Alors le truc, c'est qu'effectivement, donc Apple met quand vous avez un code sur votre iPhone, vous pouvez évidemment tenter un code, vous pouvez tenter 2 codes, vous pouvez tenter 3 codes, mais au bout d'un moment, votre iPhone, si vous activez une petite option dans les réglages, au bout de 10 essais, va l'effacer. Il va supprimer toutes les données parce qu'il estime que voilà, c'est simplement une option activée. Cette option est activée et donc le FBI ne peut rien faire. Le seul problème, il n'arrive pas à le hacker.
Oui. Et voilà, il rentre encore quelques codes et le téléphone s'efface.
Le téléphone s'efface, ils ne peuvent rien faire. Donc, ils ont demandé, alors c'est même pas le FBI, c'est carrément une juge, hein, qui a demandé à Apple de bien vouloir collaborer avec eux pour... en fait, créer une version spécifique d'iOS, hein, le logiciel de l'iPhone, qui permettrait en fait au FBI de supprimer cette limite des 10 codes à taper, et qui permettrait en fait du coup de tenter tous les codes possibles pour essayer de débloquer cet iPhone.
Ce qu'on appelle
c'est la force brute.
C'est-à-dire qu'on va faire des milliards de codes.
Exactement.
Donc très vite pour jusqu'à ce qu'on trouve le bon.
Exactement. Alors voilà le plan, sauf qu'Apple, et c'est pas n'importe qui chez Apple, c'est Tim Cook, dans une lettre ouverte publiée sur le site d'Apple, dit non, on ne veut pas, on le fera pas, et c'est pas parce qu'on est pro-terroriste, on trouve ça scandaleux, on ne veut pas tout simplement le faire parce que on est Apple et qu'on est on protège d'une certaine manière les données de nos clients et que effectivement on ne va pas commencer à faire ça pour cette affaire, parce que si on commence à le faire pour cette affaire,
la brèche est ouverte, la faille est ouverte.
Apple ne veut pas de précédent, en fait. C'est pour ça qu'il refuse de le faire. C'est-à-dire, si on le fait pour ça, après on va nous le demander pour plein d'autres choses dans d'autres pays, exactement,
et puis voilà.
Ou voire dans des pays pourquoi pas moins démocratiques que les États-Unis, où on peut ouvrir un téléphone pour telle ou telle raison. On connaît la Chine, par exemple. Apple est très présent en Chine. Si Apple accepte ça aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer en Chine?
Voilà. Donc, s'il refuse la Chine, après, La Chine peut prendre des mesures justement pour ne plus promouvoir l'iPhone comme elle le fait aujourd'hui.
Exactement. Et voilà. Enfin, donc c'est une affaire en tout cas où Apple.
C'est très compliqué.
C'est très compliqué parce qu'effectivement d'un côté il y a un terroriste, on ne peut pas accéder à son téléphone et c'est comme si on disait Apple plus ou moins complice des terroristes puisqu'ils ne les laissent pas. Alors c'est vrai que c'est un débat qui fait rage aux États-Unis. Hein. On sait qu'il y a déjà aux États-Unis un gros débat sur le chiffrement. On ne sait pas est-ce que depuis l'affaire Snowden, l'éclatement de l'affaire Snowden, effectivement les sociétés high-tech veulent protéger davantage leurs clients. Hein. Mais il y a ce besoin quand même des autorités qui réclament à pouvoir espionner, regarder ce qui se passe dans les téléphones dans ce genre d'affaires. Donc tout le monde y va aujourd'hui. Là ça continue toute la semaine. Hein, de son petit commentaire cette affaire. Il y a évidemment les républicains type Donald Trump qui sont scandalisés par la position d'Apple. Il y a toutes les associations de défense des droits sur Internet type l'EFF qui protègent la décision d'Apple. Ils ont aussi suivis par Microsoft. Microsoft s'est exprimé pour Apple ainsi que Google ainsi que Facebook. Toute
c'est
la Silicon Valley.
Même vrai, les concurrents.
Même les concurrents là se disent on est d'accord avec.
Ça pourrait nous arriver demain.
Ça pourrait nous arriver demain et. On ne veut pas effectivement que ça nous arrive. Donc pour l'instant ce n'est pas tranché. Apple a fait appel en fait, donc on ne sait pas encore s'ils vont être obligés de le faire. On va voir, mais en tout cas pour l'instant c'est une affaire qui va être très importante pour la suite des événements
et très suivie.
Donc voilà.
Voilà, on vous tiendra au courant, bien évidemment.
Exactement.
On parlait de Microsoft il y a un instant. Microsoft qui a eu une information plus heureuse cette semaine.
Oui, c'est plus léger.
Voilà, la Surface Book, qui était disponible depuis plusieurs semaines d'ailleurs.
Exactement,
aux États-Unis arrive enfin en France.
Ça y est, et là, oui, c'est en fait, Microsoft l'appelle tout simplement, modestement, l'ordinateur portable ultime. Voilà.
Oui, en toute simplicité.
En toute simplicité. Et effectivement, c'est un très bel ordinateur portable. Alors, c'est déjà le premier ordinateur portable de Microsoft. Ils ont déjà fait Surface, qui était plutôt une tablette. Là, c'est vraiment un ordinateur portable. Donc, ce qui est étonnant, c'est que, voilà, on sait très bien qu'ils visent avec cet ordinateur portable. C'est un ordinateur portable très cher. C'est à partir de 1 600 €. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est pas donné.
Oui. Et c'est l'entrée de gamme. Hein.
Et c'est l'entrée de gamme. Ça peut monter beaucoup plus haut.
Ça peut monter jusqu'à 3 000, en fait.
Oui, voilà. Tout simplement. Donc, c'est très cher. C'est très beau. C'est très bien fait. Vous avez même un écran détachable. Hein. C'est le grand slogan de Microsoft. En ce moment, l'écran le PC convertible, et Microsoft veut là en fait se donner c'est typiquement dans ce qu'il veut faire aujourd'hui, de se donner une image de marque innovante. Un peu, on va dire, imiter celle qui marche très bien, notamment pour les portables aujourd'hui, c'est Apple. Hein. C'est clairement fait pour, on sait, tout le monde qui est entreprise, vous voyez entreprise aujourd'hui, les gens qui veulent avoir un beau matériel utilisent des MacBooks. Bah, Microsoft en a marre et veut que...
Et veut montrer à l'image de
Microsoft et veut montrer que les PC, c'est pas forcément moche.
Et que
ça peut être cher. Donc voilà, ils le disent clairement. Hein, c'est clairement et ça c'est très intéressant parce que c'est vrai que Microsoft est en train d'essayer de changer d'image et ce produit tente d'y contribuer. Alors on l'a pas encore testé dans toutes ses grandes largeurs, on ne sait pas exactement s'il est très très performant, mais en tout cas sur le papier il a vraiment tout le meilleur matériel qu'on peut imaginer sur
un écran sublime,
c'est vrai. Effectivement des fonctions fonctions de reconnaissance d'identification visage, excusez-moi. Facial, voilà.
Reconnaissance faciale avec le système Hello, hein, c'est-à-dire que l'ordinateur analyse votre visage, le reconnaît parce qu'il a été préenregistré et votre ordi se déverrouille tout seul.
Exactement.
Sans vous ayez rien à faire.
Donc voilà, c'est un petit concentré de technologie. On va voir s'ils vont en vendre beaucoup. C'est pas sûr parce que c'est quand même pas un ordinateur pour monsieur tout le monde. C'est vraiment fait pour les créatifs, pour les gens qui ont des gros besoins. Mais c'est en tout cas, un symbole de ce nouveau Microsoft qui est là maintenant.
Voilà. Alors c'est pas dénué de bugs, hein, parce qu'on l'a un petit peu testé nous et c'est vrai que il y a pas mal de bugs encore, notamment quand on enlève la tablette du clavier. Parfois, quand on appuie sur le bouton, ça marche pas. Enfin, voilà.
Et d'ailleurs, ils viennent
des messages bizarres.
Un énorme patch pour tenter de corriger une partie de ces bugs.
Eh ben, écoutez, après avoir installé le patch, il y a toujours les bugs. En tout cas, sur la
mienne. Je n'ai pas vu ça.
Voilà,
oui, d'accord.
Je vais vous le dire. On enchaîne avec un autre rendez-vous qui va se dérouler dans les heures qui viennent à Barcelone. Barcelone qui va être la capitale du smartphone tout au long de la semaine prochaine.
Ouais.
C'est le Mobile World Congress.
Exactement. Puis on y sera en force, hein, que ce soit 01net TV, 01net. On y sera, pour tout, pour.
On y va en bus,
hein. Ouais,
c'est un peu
ça.
On va partir là dans pas longtemps pour être pour arriver à l'heure.
Exactement, parce qu'il va y avoir effectivement une grosse actualité, c'est le salon du mobile, et c'est là que tous les grands noms du mobile vont présenter leur nouveau smartphone. Et à commencer évidemment par Samsung, hein. C'est Samsung, ça reste le concurrent numéro 1 d'Apple sur Android haut de gamme, hein. C'est vraiment le gros vendeur de téléphones.
C'est le premier constructeur de smartphone au monde.
Et c'est le premier constructeur smartphone au monde, et qui va présenter, alors c'est un secret de polichinelle, puisque des rumeurs, il y en a depuis très longtemps, mais on sait très bien qu'ils vont présenter leur nouveau smartphone haut de gamme, qui va s'appeler tout à fait logiquement le Galaxy S7, et qui sera une évolution de ce qu'on connaît déjà, mais avec sans doute quelques petites surprises, notamment par exemple l'étanchéité, notamment
l'arrivée d'un port SD aussi, pour augmenter la mémoire du téléphone,
exactement.
Ce qui n'était pas le cas sur le S6.
Donc voilà, on va voir ça. Donc ça, Samsung, ça va être un peu le gros événement de ce salon, mais il y en a d'autres, hein. Il y aura aussi LG qui est le gros concurrent de Samsung, et qui lui aussi va arriver avec une nouvelle version de son téléphone flagship entre guillemets, le G5, hein, c'est pas non plus très original, mais en revanche, ce qui sera plus original, c'est qu'il aurait des petites fonctions sympas, comme un écran qui reste constamment allumé par exemple pour vous avoir des notifications en permanence, ou alors d'un module d'extension pour par exemple ajouter une batterie plus grosse ou des fonctions supplémentaires,
oui, qu'on caméra 360 aussi,
parce que ça
va être sans doute l'une des grosses tendances aussi de ce mobile.
Effectivement, tout à fait.
La capture des vidéos en 360.
Et la réalité virtuelle, puisque c'est aussi, souvent avec des mobiles qu'on l'a fait. Donc on aura Samsung, LG, on peut aussi parler de Huawei, hein, qui est en train de monter en puissance de façon phénoménale chez nous. Donc voilà.
Ce sera à suivre à partir de dimanche, à la fois sur zeronet.com, bien sûr, et zeronet TV, si vous voulez des petites images qui bougent aussi et des gens qui parlent pour vous présenter les téléphones. On va terminer avec cette annonce étonnante de Volvo. Volvo, le constructeur automobile, qui a de grosses ambitions en matière d'accidentologie chez Volvo. Hein. Pour eux, dans quelques années, il n'y aura plus aucun mort dans une Volvo. Je ne sais pas comment ils arrivent à prédire ça,
ils ont
cet objectif. Alors là, ils lancent quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui est assez drôle.
Exactement. Alors on sait que Volvo, ils sont très forts sur la voiture connectée. Ils avaient déjà d'ailleurs gagné un prix 01net de la voiture connectée.
Exactement. Et même de la voiture en termes de sécurité.
Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont très très forts là-dessus. Et là, ils veulent simplement lancer une voiture sans clé. Donc c'est comme ça qu'ils ont communiqué. Voilà, Volvo va lancer des voitures sans clé. Alors des voitures sans clé, c'est effectivement un petit peu bizarre, mais ce qu'ils vont faire tout simplement, c'est on va dire dématérialiser la clé de voiture en la mettant dans votre smartphone. Ce sera simplement votre clé sera une application pour votre smartphone, et pour ouvrir votre voiture, vous n'aurez qu'à tapoter sur votre écran pour débloquer votre véhicule. Alors ça, c'est une fonction, mais alors bon, on peut se dire à quoi ça va servir à part ne plus avoir de clé, mais c'est vrai que ça peut on peut imaginer bien d'autres usages, vu que la clé est dématérialisée. On peut par exemple imaginer que vous prêtiez votre voiture à quelqu'un pour
deux jours. Je vous envoie un mail avec cette clé de chiffrement.
Exactement.
À l'intérieur, et ça activera l'ouverture de la voiture pendant quelques jours.
Exactement, vous pouvez donc prêter votre voiture, vous pouvez aussi avec cette application, si vous avez une voiture de location Volvo, vous pourrez par exemple activer sans avoir besoin de garder une clé avec vous votre voiture de location, puis quand vous n'aurez plus accès à cette voiture, vous n'aurez plus de clé, tout simplement.
Voilà.
Donc c'est assez étonnant. Alors c'est pas nouveau, tout à fait nouveau, on avait déjà parlé de ça il y a quelques années, notamment au salon de l'auto, mais c'est la première fois qu'un constructeur matérialise complètement une clé de voiture.
Et lance ça véritablement.
Et lance ce produit, ouais. Voilà.
Merci beaucoup, Eric.
Merci.
Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com. Vous restez là, la suite et la fin de l'atelier dans une minute avec le crash test d'Antoine Cyr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bientôt la fin de cet atelier sur BFM Business, atelier numérique. Vous le savez, chaque samedi 16h-18h, le crash test d'Antoine. Antoine est véritablement dans ses documents confidentiels pour nous préparer ce crash test. Je le vois là, en train de compulser son ordinateur portable. Mais auparavant...
Portatif.
Portatif. C'est mieux. C'est vrai que c'est mieux.
J'aime bien ce mot désuet.
Tout à fait, tout à fait. Mais auparavant, Guillaume de Groisse de l'atelier est avec nous, vous le savez, pour son décryptage. Et on va parler cette semaine, encore une fois, de tout ce qui est monnaie virtuelle. On avait évoqué le Bitcoin la semaine dernière. Guillaume, on va poursuivre avec le blockchain.
Oui, alors effectivement, François, la semaine dernière, on avait parlé de Bitcoin. Donc, cette fois-ci, je voulais vous parler plus en détail de blockchain. Donc, la blockchain, c'est quoi ? C'est cette base de données ouverte, distribuée, qui permet d'inscrire des transactions. C'est vraiment ce qui sous-tend, hein, avec ce réseau blockchain, la Bitcoin. Mais Ce qui est intéressant, c'est que la blockchain, ça peut faire plein d'autres choses que d'enregistrer des écritures financières.
Ça, c'est bien. Donc, vous avez d'autres exemples pour nous.
Exactement. Guillaume. Parce que Nathalie avait déjà parlé de l'utilisation de la blockchain dans les services financiers. Et donc, moi, j'avais envie de vous parler d'autre chose. Je ne sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, au NetExplo, il y avait une start-up qui s'appelle Bitland, qui rêve d'utiliser la blockchain pour donner un cadastre au Ghana. Donc, là, l'idée est très simple. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent utiliser le fait que aujourd'hui il n'y ait pas de cadastre au Ghana, donc on n'a pas d'idée de quel lot ou quelle propriété appartient à qui, etc. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent vendre des biens qui ne leur appartiennent pas. Bien entendu, si vous voulez faire un crédit, etc., vous avez un mal de fou à tracer vos avoirs, etc. Et donc l'idée là avec la blockchain, c'est de dire je suis le propriétaire d'un bien, je le vends, c'est tracé dans cette base de données de blockchain, qui est une base de données ouverte à tous, donc tout le monde peut voir cette transaction, tout le monde peut savoir ce qui s'est passé, et donc on est bien dans cette logique de traçabilité. Et nos amis d'IBM ont eux aussi eu envie d'utiliser la blockchain pour ces problématiques de traçabilité, et ils veulent eux l'appliquer dans la logistique et en particulier dans la chaîne du froid, en mettant des capteurs sur des yaourts, des choses comme ça, et en fait en suivant grâce à la blockchain les ruptures de chaîne du froid, et comme l'information est distribuée, tout le monde se rendra compte à quel moment cette chaîne du froid est brisée.
Alors, on se rend pas trop compte de l'impact de la blockchain, mais en fait, selon nos confrères de la Tribune, cette révolution blockchain serait équivalente à celle de l'Internet, tant que ça, Guillaume ?
Oui, cette révolution de la blockchain, elle va bien au-delà des services financiers, comme je viens de vous le dire. Elle va changer la gestion des échanges et de l'information. Et l'analogie est très juste, hein, c'est qu'on peut faire une analogie entre la blockchain et le protocole TCP/IP, qui est le protocole derrière la communication d'Internet. Pour ce qui est de cette révolution, on se retrouve aussi dans un cas de figure intéressant, qui est la différence entre une blockchain publique, qui est la blockchain ouverte, open source, dont on vient de parler, et la tentation qu'ont les grandes banques, par exemple, ou d'autres personnes de mettre en place des blockchains privées. Et donc, dans les blockchains privées, par exemple, on a Microsoft qui a décidé de faire une blockchain privée basée sur une monnaie virtuelle qui s'appelle Ether. Donc, cette blockchain privée, elle s'appelle Ethereum. Et elle est à disposition du cloud Azure de Microsoft. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est-à-dire que la blockchain, au départ, elle est ouverte, elle est distribuée, elle est dans cet esprit très open source. Et là, on se rend compte qu'il y a des blockchains privées qui sont en train de se créer. Et là, ce qui est très difficile pour nous, c'est de savoir qui va gagner. Mais sur la révolution Internet, on sait que c'est le protocole le plus ouvert qui a gagné, et pas celui qui était techniquement le plus réussi. Et donc, sur ces blockchains, je n'investirai pas dans une blockchain privée.
Merci beaucoup, Guillaume. Guillaume de Groise, donc, de l'Atelier numérique. Antoine, c'est à vous. 8 minutes pour le crash test et pour terminer cet atelier.
Alors, je vais vous parler d'un Français qui a... aujourd'hui, qui jouit d'un seul coup d'un prestige considérable. Et c'est pourtant un Français pour lequel la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est une belle histoire d'obstination scientifique. C'est celle de Yann Lequin. Alors évidemment, Yann Lequin, ça s'écrit L-E-C-U-N, c'est un breton. Et là, pour le coup, l'obstination, je dirais, la persévérance bretonne, est tout à fait illustré par son parcours. Alors évidemment, aujourd'hui, Yann Lequin, tout le monde le célèbre. Le 4 février dernier, il a donné sa leçon inaugurale au Collège de France. Donc c'est une personnalité extraordinaire. Aujourd'hui, Yann Lequin est à la tête de l'unité de recherche sur l'intelligence artificielle de Facebook, qui s'appelle le FAIR, F-A-I-R. En anglais. Et donc, par exemple, dans Le Monde, on nous dit que quand des jeunes disciples ont été recrutés par le maître pour travailler chez Facebook, ils ont expliqué aux journalistes que Yann est un dieu dans cette discipline. Il y a 45 membres d'ailleurs dans l'équipe de Yann Lequin. On nous dit aussi que comme tous les dieux, finalement, il a plusieurs noms, parce qu'on parle de lui dans les pays asiatique, hein, pensez, un spécialiste de l'intelligence artificielle. Donc les Chinois ou les Coréens l'appellent Yon Li Kun, d'autres l'appellent Yen Le Kan, et puis d'autres l'appellent Yan Li Chun. Voilà.
Ouais. Et il faut qu'ils soient au courant parce qu'autrement ils se retournent pas. Hein,
voilà, exactement.
Si on apprend comme ça.
Exactement. Et aux États-Unis d'ailleurs, Le Kan dit que les Américains ont toujours eu du mal à écrire son nom parce que par exemple le fait qu'il y ait un L qui soit séparé du C, bah les Américains ils l'écrivent naturellement Yan L Quin, vous voyez, et puis alors il y a aussi, il raconte Yann Le Quin, il y a un prix Nobel de physique américain qui s'est offusqué que je prononce mon nom en un car il pensait que c'était impossible en breton. Bon, alors évidemment Yann Le Quin il a dit écoutez, je sais quand même comment, vous êtes prix Nobel mais moi
je sais comment on prononce mon nom,
je sais comment on prononce mon nom. Alors Yann Le Quin, il faut bien comprendre que chez Facebook, donc on a un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle.
Il est français.
Et il est français. Et la technique que Yann Le Quin a promue, c'est celle qu'on appelle le deep learning. Alors le deep learning, je vais y revenir dans quelques instants. Il y a un article, par exemple, dans libé.fr, où on nous dit quand on lui demande d'expliquer sa spécialité, le deep learning ou donc apprentissage profond, en traduisant, Yann Le Quin a un léger éclat de rire. Puis s'aidant d'un smartphone ou d'une bouteille d'eau, il décrit une machine constituée d'une série d'étages. La première couche détecte des petits contours élémentaires. La seconde assemble ses contours en motifs, puis les motifs sont assemblés en parties d'objets, les parties d'objets en objets, etc. Et donc, on voit un process qui finalement se fait quand même en pas mal d'étapes, et c'est la succession de ces étapes qui crée une espèce d'intelligence artificielle extrêmement poussée, et beaucoup plus poussée que celle auxquelles on était habitués jusqu'à présent. Et alors là, où c'est extraordinaire, c'est que Le Quin a cru dès les années 80 à cette forme d'intelligence artificielle, au deep learning. Il a travaillé au Bell Lab dans le New Jersey à partir de 1988. Là, les gars ont vu arriver ce type, ils se sont dit quand même, soit on l'embauche, soit on va passer le reste de nos vies en compétition avec lui, donc autant le recruter. Ils ont commencé à appliquer sa technique, ils l'ont déployé pour quelque chose de finalement presque secondaire, pour la lecture automatique de chèques. Alors évidemment, vu le nombre de chèques qu'il y avait à l'époque, c'est très important, mais le chèque, on sait que c'est un objet qui est plutôt en train de se réduire. Et finalement, ça a été abandonné parce que c'était considéré comme trop complexe, parce qu'il y avait trop de puissance de calcul nécessaire. Mais là, Le Quin n'en a pas démordu. En 2003, avec quelques confrères, il a démarré une espèce de conspiration, il appelle ça une conspiration, pour faire revivre le deep learning, qui a fait un retour en grâce spectaculaire. D'un seul coup, avec son utilisation dans la reconnaissance d'images, il est devenu la technique qui s'appliquait à la reconnaissance d'images. L'incroyable persévérance de Le Quin à payer, hein,
l'augmentation exponentielle de la puissance en fait des processeurs qui fait qu'il y a de plus en plus de calculs faisables.
Voilà, et que donc effectivement cette latence de calcul qui était un handicap il y a 20 ans ne l'est plus bien entendu avec les processeurs d'aujourd'hui. Alors, il y a une chose que je trouve absolument touchante, c'est qu'évidemment, je suis allé sur le blog de Yann Le Quin, et alors sur le blog de Yann Le Quin, il y a la photo d'un très étrange avion que je ne connaissais pas, sur lequel sont écrits deux noms, René Lorrain et Jean Villet. Donc je me suis demandé qu'est-ce que c'est que cette espèce d'avion très fuselé, très étonnant. Et en fait, c'est le tuyau de poêle volant. Alors le tuyau de poêle volant, c'est en fait le prototype de l'avion utilisant le statoréacteur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le statoréacteur, c'est le moteur à réaction dans lequel il n'y a aucune pièce en mouvement. Et donc le statoréacteur, c'est quelque chose d'extrêmement performant, qui a pas mal d'applications. Mais le problème du statoréacteur, c'est qu'il ne peut pas marcher s'il n'est pas déjà lancé. Il faut le lancer. D'accord. Un statoréacteur, ça peut pas partir d'une position immobile.
Il faut le pousser, quoi.
Et donc, René Laurin, qui est l'inventeur du début du XXe siècle, qui a eu l'idée du statoréacteur, n'avait pas les moyens de...
Oui. De propulser ce réacteur.
Et finalement n'avait pas les moyens de prouver la véracité de sa théorie. Et elle était vraie. Et puis donc il y a Jean Villet, un autre savant qui a travaillé dans ce domaine et qui a écrit un livre qui s'appelle L'avion autopropulsé. Et donc l'avion dont on trouve la photo sur le blog de Yann Lequin, c'est donc le tuyau de poêle volant qui est l'un des 6 prototypes construits par René Leduc, qui lui est l'un des premiers à avoir construit un avion reposant sur un statoréacteur. Et donc il y a bien là aussi l'idée que voilà, il faut être persévérant, que quand on croit à une théorie scientifique, il faut y croire. Et en plus Yann Lequin s'amuse à construire des machines volantes quand il est pas en train de s'occuper
donc il est passionné par l'aviation,
mais c'est marrant qui rend hommage à de grands obstinés qui ont découvert des choses absolument extraordinaires. Je crois que c'est ça qui est très intéressant, c'est finalement ce côté à la fois savant, obstiné et en même temps grand enfant, c'est assez extraordinaire.
D'autant qu'on est au tout début de l'intelligence artificielle, hein, bien
entendu.
Merci Antoine et merci pour ce bon moment de ce crash test donc dédié à Yann Lequin. Cet atelier est terminé. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Business. Rendez-vous samedi prochain, vous le savez, 16h-18h pour votre rendez-vous high tech du week-end. Salut à tous.